J'invite à ouvrir votre Bible dans le deuxième livre des Chroniques. On va découvrir ce soir la vie, on va relever quelques caractéristiques d'un autre roi d'Israël. Le roi ce soir s'appelle Josaphat. Alors bien sûr, on ne va pas tout lire sur la vie de Josaphat. Ce soir, on va voir quatre aspects remarquables de la vie de Josaphat. Ça fait partie des bons rois de Juda. Un des fils d'Asa. Et Asa, on avait parlé de lui, il avait déjà la caractéristique d'être un bon roi. Parce qu'il avait fait le nettoyage, il avait retiré toutes les idoles du pays d'Israël. Et même, il avait destitué sa mère, qui avait la place de reine, parce qu'elle encourageait à l'idolâtrie. Et là, on va voir Josaphat. Josaphat, ce soir, on va voir quatre caractéristiques remarquables de sa vie. Et vendredi soir, on verra, parce que ça reste un homme, et que souvent, avec les hommes, il y a des histoires de « oui, mais ». Il est bon, mais il y a des aspects d'antan plus ténébreux. En l'occurrence, pour lui, je dirais plutôt une faiblesse dans sa vie, mais on verra ça vendredi. Josaphat, tout le monde est deuxième livre des Chroniques, chapitre 17, lisons les versets 3 à 6. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, c'est-à-dire les faux dieux. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Verset 6. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Le premier point remarquable de la vie de Josaphat, c'est que cet homme marche dans les bonnes voies de David. On sait que David, on a eu l'occasion de l'étudier en partie, qu'il était particulièrement apprécié des dieux. Je vous rappelle que David, c'était l'homme désiré par Dieu lui-même. Voici le roi que je désire. Et David s'est présenté comme être un homme fidèle, intègre. Et il nous est dit que ce Josaphat-là a suivi l'exemple de son grand-père, même si ce n'est pas directement David. L'Éternel était avec Josaphat parce qu'il marcha dans les bonnes voies de David. Il n'est pas dit que Dieu était avec Josaphat parce qu'il était roi. Il n'est pas dit que Dieu était avec Josaphat parce qu'il faisait partie de la meilleure église du monde. Il n'a pas dit que Dieu était avec Josaphat parce qu'il méritait quoi que ce soit. Dieu était avec Josaphat parce que Josaphat a appliqué, a marché dans la voie de Dieu. L'image est assez parlante. On marche sur un chemin. On marche sur une route. On marche sur quelque chose de tracé. Marcher dans la voie de Dieu, marcher dans la bonne voie de Dieu, bah c'est ce qui est défini après. Il eut recours à Dieu. C'est-à-dire que quand Josaphat avait un problème, son premier secours, son premier appel, sa première pensée, c'était « Seigneur, aide-moi ». C'est ça la foi. C'est avoir la première aptitude, quelle que soit votre situation de détresse, quelle que soit votre situation de faiblesse, quelle que soit votre situation où vous vous sentez peut-être perdu, faible, incapable, impuissant, triste, désemparé, où il vous manquerait quelque chose, où vous avez besoin d'un secours, quel que soit le domaine de ce secours, la première réaction de Josaphat, c'est qu'il avait recours à l'Éternel. Voilà un homme qui savait qu'en Dieu, il trouvait ce dont il avait besoin. Et ça, c'est un problème, encore aujourd'hui, des hommes et des femmes qui peuvent confesser, croire en un Dieu, mais qui, en fait, ne recourent rarement à lui. Ou alors seulement pour les très gros problèmes. Alors là, oui. Quand il n'y a plus d'issue, quand c'est la catastrophe, quand on est déjà au fond du fond du fond, alors on leur dit « Oh Seigneur, pourquoi ?» Mais il ne faut pas attendre d'être au fond pour crier au Seigneur. Chaque jour, dans nos vies au quotidien, on a de quoi mesurer nos limitations. Notre manque de joie, notre manque d'amour, nos irritations, notre impatience, nos agacements, nos impuissances même, nos incapacités. Et au lieu de persévérer, de croire qu'on va y arriver par la force du poignet ou par des efforts, ayons recours à l'Éternel. Et Josué avait cette mentalité. Il eut recours à l'Éternel. Ça, c'est marcher dans la voie de Dieu. Le deuxième aspect de marcher dans la bonne voie de Dieu, c'est il a suivi ses commandements, tout simplement. C'est-à-dire que Josué conformait ses choix, sa manière de vivre, par rapport à ce qui est écrit dans la parole. Qu'est-ce qui est écrit dans l'Écriture ? Qu'est-ce que dit Dieu ? Lorsqu'il y a un choix, une décision, une orientation, qu'il y a peut-être un doute, au fait, mais quel est le conseil de Dieu ? Qu'est-ce que dit la Bible ? Voilà quelque chose qui honore Dieu et que Dieu honore. La troisième chose qui nous est dit de Josaphat, dans cette marche, parce que quand on marche, on avance. Bah, c'est que dans cette marche, elle est logique. Dieu veut que nous marchions, Dieu veut que nous avancions. Et le sens de cette marche se signifie, s'exprime par cette parole, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Il y a des gens qui ont fait un beau départ. Et puis, la marche ralentit. Certains sont à l'arrêt. Et les choses avancent, mais ce n'est pas eux qui avancent. Ce sont le monde, ce sont les circonstances qui avancent dans leur vie, mais eux, ils sont à l'arrêt. Josaphat, lui, continua à grandir, malgré les expériences, malgré son bon exemple. Son cœur grandit. Ce n'est pas seulement d'un point de vue moral qu'il avançait, mais c'est dans son cœur. Il grandissait dans une intimité. Il continuait à développer une relation avec Dieu. Il continuait à développer une connaissance de Dieu lui-même. Je ne sais pas comment vous pourriez mesurer Dieu, mais je crois que par rapport à nous, il est tellement grand et que sa personne est tellement grande que toute notre vie n'est pas suffisante pour connaître Dieu. Certains se suffisent de ce qu'ils connaissent déjà de lui. Mais Josaphat faisait partie de ces hommes qui a cherché à connaître Dieu, à marcher dans ses voies. Et pas seulement être un religieux, mais à le connaître dans son cœur. Et il a grandi. Son cœur a grandi dans la connaissance de Dieu. Une dernière application pour nos jours. Il nous est parlé dans la Bible d'un monsieur qui s'appelle Enoch. C'est en Genèse chapitre 5. Il nous est dit de cet homme qu'il a marché avec Dieu. Alors ce n'est pas forcément la même illustration, mais c'est la même mentalité. Enoch marcha avec Dieu. On voit cette notion d'association, d'accord, d'union, d'harmonisation, l'un par rapport à l'autre, de sensibilité, parce que lorsqu'on marche avec quelqu'un, il faut être sensible à son rythme, à son pas. Et Enoch marcha avec Dieu. Il nous est dit que Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Nous sommes fort probablement dans ce qu'on peut définir comme les temps de la fin qui précèdent l'enlèvement de l'Église et que nous aussi, ces temps nous stimulent à la marche, à reprendre la marche, à marcher d'un pas ferme, d'un pas droit, que n'y ait pas que Josaphat qui marche dans la bonne voie de David. Que chacun d'entre nous ce soir, Dieu puisse dire, cet homme, cette femme, marche dans la bonne voie. Et lorsque Jésus viendra chercher son Église, que dans notre marche, nos pieds soudainement se lèvent vers le ciel et puissent rejoindre notre Seigneur. Veillons aussi à avoir cette bonne marche. Le deuxième point remarquable de la vie de Josaphat, évidemment, je vous laisserai lire tous les chapitres à la maison, mais on peut lire les versets, toujours dans le chapitre 17, les versets 7 à 9. La troisième année de son règne, il chargea des chefs, alors on a quelques noms, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Netanel et Miché, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Et il envoya avec eux les Lévites, Shemaïja, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramo, Jonathan, Adonija, Tobija, Tod Adonija, les Lévites, et les sacrificateurs, Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, permettez-moi de vous dire que tous les noms que nous avons lus, ce sont des personnages inconnus. C'est-à-dire que il y a d'autres personnages, il y a Abdias, on pourrait croire que ce sont les autres personnages que nous pouvons lire dans les autres, mais ça ferait un anachronisme, ça ne correspondrait pas aux dates. Donc, ce sont des personnages inconnus. Ce qu'il faut retenir, c'est que je crois qu'il n'y a que ce roi qui a appliqué ce principe dans Juda. Jonadab a eu à cœur d'enseigner tout le peuple dans la connaissance de la parole de Dieu. Il n'a pas seulement décrété, ah, ce serait bien que vous le connaissiez, mais il a mis en pratique cela. Il y avait déjà dans la loi juive, normalement, une ordonnance qui faisait que dans les trois grandes fêtes juives où le peuple se réunissait à Jérusalem, il y avait la lecture de la Torah et elle devait être lue au peuple entier, trois fois dans l'année au moins. Mais Josaphat a une vision plus profonde. Il a délégué des gens pour que ces gens aillent de ville en ville. Parmi le peuple, ce n'est pas le peuple qui devait seulement aller au temple. Là, c'est l'inverse. C'est la parole qui va vers les gens. Mais quelle belle illustration! Quel bel engagement! Quelle belle détermination! Josaphat avait à cœur que le peuple connaisse la parole de Dieu. Jésus faisait exactement cela. Il passait son temps à enseigner les foules, à enseigner ses disciples. Les propres disciples eux-mêmes avaient l'obligation et l'ordre qui nous a été transmise d'aller de par le monde, de faire des disciples et baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de les enseigner à observer tout ce que lui-même avait demandé de faire. Paul avait la même logique. Il va écrire à Timothée « Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui eux-mêmes l'enseigneront à d'autres. » Cette notion de la transmission, de la communication, du partage, de la multiplication de la connaissance de la parole de Dieu. Tout part de la connaissance de la parole de Dieu. Le monde a été fait par la parole de Dieu. C'est un de ces proverbes qu'on a lu cette semaine, qui disait que le manque de connaissance n'était bon à personne. Nous avons besoin de grandir, de nous affermir dans la vérité, dans la parole. J'ai marqué une petite phrase qui dit « Mieux vaut le renoncement pour la vérité que la sincérité dans l'erreur. » Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là ? « Mieux vaut le renoncement pour la vérité que la sincérité dans l'erreur. » Je vais expliquer. Par une illustration. Il y a quelque temps, c'est tout frais, ça me turlupine l'esprit. Une femme a été sortie d'un système mensonger. Un système religieux mensonger, les témoins de Jéhovah. Et cette femme en est sortie par la vérité. Alléluia. Elle a ouvert les yeux par la parole de Dieu. Elle dit, mais oui, c'est vrai. Là où je suis, c'est l'erreur. C'est le mensonge. Et voilà que j'apprends quelques temps après que cette même personne est partie dans un autre système religieux mensonger. Et quand J'ai eu l'occasion d'échanger, d'exprimer mon étonnement. Dire, mais comment d'un système mensonger, tu retournes à un autre mensonge, à un autre système de mensonge. Sa réponse a été dure, mais je crois que ce qui est important, c'est d'être bien là où on est et d'être sincère. Mais non! La sincérité dans l'erreur ne nous justifie pas devant Dieu. La parole de Dieu nous parle de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est vrai que de temps en temps, la vérité peut nous déstabiliser. La vérité peut mettre le doigt sur des choses sur lesquelles on n'a pas du tout envie de renoncer. Peut-être que la parole de Dieu, effectivement, dans sa vérité, va nous demander des renoncements dans certains domaines. D'où cette phrase. Il vaut mieux le renoncement pour la vérité que la sincérité dans l'erreur. D'où l'importance pour nous d'être enracinés dans la parole de Dieu, de bien connaître la parole de Dieu, pour ne pas nous laisser berner, entourlouper, et pour au contraire, comme faisait le psalmiste, serrer ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Josaphat enseigna le peuple pour qu'il soit dans la vérité. Et quand on lit les paroles de Jésus, notamment en Jean, on voit bien que Jésus rappelle bien ce lien entre le vrai disciple et sa mission de garder la parole de Dieu. J'ai coutume de dire qu'on reconnaît un vrai disciple dans ce qu'il garde la parole de Dieu. Il ne cherche ni à l'exploiter, ni à s'en servir pour sa satisfaction ou pour assommer les autres, mais il garde la parole comme un trésor. Bien sûr, il y a des choses qui nous échappent. Et l'essentiel, c'est de garder la parole. Troisième point remarquable de la vie de Josaphat, après sa marche, après son attachement pour la parole de Dieu, lisons au chapitre 19, versets 4 à 7. Josaphat resta à Jérusalem. Puis, alors vous avez vu qu'il avait délégué des gens pour faire le tour de toutes les villes, d'accord ? Ça nous rappelle Jésus qu'elle est de lieu en lieu pour enseigner. Et puis, il est écrit là, « Puis il fit encore une tournée parmi le peuple. » C'est-à-dire qu'en fait, il avait participé à aller auprès du peuple pour enseigner. Et là, il y retourne, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez. Car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera auprès de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni injustice, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acception de personne. Quand il fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites et des sacrificateurs et des chefs de maisons paternelles. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Amen. Josaphat a eu à cœur d'enseigner le peuple dans la parole de Dieu, dans ce qui plaît à Dieu. Et puis il est retourné, faire le tour des villes. Et là, il a trouvé bon d'établir des juges, qui avaient eux pour vocation, en plus de régler effectivement les questions de loi religieuse, mais également d'établir des juges pour juger les faits de société. Josaphat a le désir que dans son royaume s'établisse une justice sociale. Et ne nous trompons pas, il n'y a pas de piété religieuse agréable à Dieu sans justice sociale droite, intègre. Ne croyons pas que notre piété suffisent à plaire à Dieu. Ce que Dieu veut voir, ce sont des hommes qui aiment Dieu et qui, par leur attitude, se comportent de manière droite, de manière juste, de manière équitable, de manière équilibrée, de manière bonne, en toute vérité, avec ceux qui nous entourent. Ne négligeons jamais. Si nous négligeons nos rapports avec les autres, si nous sommes injustes avec les autres, si nous sommes durs avec les autres, ne croyons pas que c'est notre belle prière à l'église qui va nous rendre favorables aux yeux de Dieu. Dieu veut les deux. Il veut des hommes et des femmes de piété. Mais il veut des hommes et des femmes sincères, des hommes vrais, des hommes droits, des hommes intègres, qui prennent soin du prochain, qui ne fassent pas d'injustice sociale. Quand vous lisez la plupart des prophètes, ils ont condamné l'injustice sociale qui se répandait parmi le peuple. Lorsque nous sommes en période de jeûne et de prière, mais lorsque la Bible veut nous parler du jeûne agréable à Dieu, qu'on peut lire en Ésaïe 58, il n'est pas du tout parlé de piété, il n'est pas parlé de longueur de prière, il n'est pas parlé d'abstinence. Il est parlé de délier les liens de la méchanceté. Il nous est exactement parlé de la nécessité d'établir de bons rapports avec notre prochain. Celui qui néglige sa relation avec les autres néglige Dieu directement. Et Jésus nous a prévenu en Matthieu chapitre 7 et en Marc et en Luc et en Jean, quatre fois cela est bien rappelé par les évangélistes. Vous serez jugés de la manière dont vous aurez jugé les autres. C'est facile d'être dur, d'être sévère, d'être intransigeant. Dieu te jugera tel que toi tu juges les autres. Tu seras mesuré selon la manière dont tu mesures les autres. Tu seras estimé avec le même regard que tu exerces sur les autres. Et c'est pourquoi Dieu n'est pas celui qui est le Dieu de la faiblesse, où il faudrait fermer les yeux sur le mensonge ou sur le péché d'un tel, ni même nous promener avec des épées ou des fusils pour dégainer dès que quelque chose ne va pas, non. Il nous est parlé de droiture, de justice, d'intégrité, des droitures. Soyons justes, soyons droits, et comme Josaphat nous y encourage, marchons avec la crainte de Dieu dans nos relations les uns avec les autres. Le dernier fait remarquable que l'on peut lire dans la vie de Josaphat se trouve au chapitre 20. Je vous laisse lire à la maison tout ce chapitre, et là je suis obligé de résumer. Lisons les quatre premiers versets. Après cela, c'est un contexte de guerre, comme ça, ça vous met tout de suite dans le contexte. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tamar, qui est en Guédi. » Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Vous pourrez lire la prière qu'il formule. Et là, il y a l'intervention d'un prophète qui vient avec une parole de Dieu que nous allons lire en partie, notamment le verset 17. Et le prophète dit cela. « Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. » Ah bon ? Il y a une armée pas croyable en face de nous, et le prophète va dire une parole complètement folle. « Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. » Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils de Kéatite, d'entre les fils des Corides, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel le Dieu d'Israël. Amen. On n'a pas fini la lecture, mais je voudrais juste faire une pause. Nous sommes dans une situation où il y a l'imminence d'une guerre. Un prophète, un homme de Dieu, un homme inspiré, s'approche et dit, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir à combattre. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous lever le matin, vous y allez, et vous verrez. Ouais, et ensuite ? Il n'y a pas de questionnement. Et là, le roi et tout le monde, oh, c'est formidable ! Demain, on va y aller, et on verra. Mais il n'y a pas un instant de doute. Ils nous ont dit, au contraire, ils se sont levés, enfin, ils se sont prosternés, et après, ils ont commencé à chanter, à glorifier le Seigneur. Ils sont complètement fous, ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain ? Lisons le lendemain. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche, de grand matin, pour le désert. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, vous serez rendus forts. Confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez. » Puis d'accord avec le peuple, en accord avec le peuple, c'est important cette petite phrase. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchèrent devant l'armée, célébrant l'Éternel et disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Drôle d'ambiance pour aller à la guerre. Et tout se passe là, et ce sera le dernier verset que nous lirons. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda. Point. Et ils furent battus. Point. Amen. Et vous pourrez lire derrière le contexte. Mais c'est extraordinaire cette histoire de Josaphat. Un homme qui ne se présente pas comme un homme solide, fort, courageux, conquérant. Un homme tout à fait ordinaire et normal. Parce que lorsqu'il apprend qu'il y a une multitude de peuples qui vient lui faire la guerre, qu'est-ce qu'il fait ? Il est rempli de frayeur, il a peur. Il a peur. Et ça, je trouve ça beau dans le caractère de Josaphat. Vous verrez, les autres rois ne réagissent pas toujours ainsi. Mais Josaphat, il est rempli de peur. Ce qui est beau dans l'attitude de Josaphat, c'est qu'il est rempli de peur et tout de suite, il commence à chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que ce Josaphat n'a pas confiance en lui. Il ne se croit pas plus fort que les autres, mais il a une entière confiance dans le Seigneur. Il n'est pas sûr de lui, mais il est sûr du Seigneur. Il n'est pas sûr de vaincre, mais il est sûr qu'en cherchant la face de Dieu, il y aura quelque chose qui va se passer. Et cet homme n'était pas forcément un mystique. Mais il y a des moments dans la vie, il faut chercher la face du Seigneur dans le jeûne et la prière. Il y a des moments, il faut chercher la face jusqu'au bout. Il y a un moment, il faut aller un peu plus loin que la petite vie d'entretien spirituel. Et Josaphat, qui était dans la crainte, dans le trouble, dans le désarroi, bien sûr, il a peur. Il a recours à l'Éternel. Il le cherche dans le jeûne, la prière. Il invite le peuple à prier et intercéder avec lui. Mais on voit soudainement cette parole du prophète complètement folle. Vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas avoir à combattre les gars, pas de souci. Vous avez juste à faire une chose, vous mettez vos armures le matin et puis vous y allez. Et puis vous verrez. Il faut la foi pour recevoir ces paroles. Il faut déjà la foi pour la donner. Il faut aussi la foi pour la recevoir. Il y a des paroles que Dieu peut nous communiquer. Mais comme on ne met pas tellement de foi dedans, on tremble, on s'agite, on se préoccupe et on finit par essayer de trouver une autre solution que celle que le Seigneur nous a donnée. Et on peut de temps en temps passer à côté de la bénédiction parce qu'il nous a semblé à notre intelligence que la réponse de Dieu n'était pas suffisante. Enfin, tu aurais pu me donner... C'est vrai, ils auraient pu commencer à négocier. Ou enfin, toi qui es prophète, tu pourrais nous donner quelques... Hein ? quelques éléments supplémentaires quand même, parce qu'on va pas sortir toute l'armée comme ça pour croiser les bras. Il faut de la foi pour recevoir la parole de Dieu et demeurer dans la parole que Dieu nous laisse. Le moyen de la délivrance est quand même complètement inattendu. Et remarquez aussi comment le déroulement. Le prophète n'a pas dit ce qu'ils avaient à faire, si ce n'est « présentez-vous demain ». Et Josaphat a à cœur. Il en parle avec le peuple. Et dit « dites-moi, et si on partait au combat, mais qu'au lieu de mettre les chars devant, les boucliers, les lances, on va mettre l'équipe de louanges devant. Hein ? C'est eux qui vont marcher devant avec leur guitare, avec des chants, avec leurs cantiques. Hein ? C'est eux qui vont aller au front. Vous êtes d'accord ? Or tout le peuple a dit « ouais, ouais !» Je ne pense pas que c'était un « ouais, ouais, on va les balancer eux !» C'était « oui, on va y aller. » Parce que le prophète nous a dit qu'on n'avait pas à combattre. Pourtant, l'armée est bien partie. Parce que c'était leur position, ils devaient être là. Mais ils sont partis avec la foi que le Seigneur interviendrait. Et lorsque les chants commençaient à se faire élever, à s'élever, voilà que Dieu s'est occupé de leurs ennemis. Et ça a été la déroute pour les ennemis. La place du chant est dans l'Église, mais la place du chant dans notre vie personnelle n'est pas à négliger. Je sais qu'il y a une formule avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord, qui dit que chanter, c'est prier deux fois. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il est arrivé deux, trois fois de l'entendre. Alors si jamais vous l'entendez, dites bien que c'est faux. Il y a le fait de chanter, il y a le fait de prier. Mais on ne compense pas un nombre de prières par une manière de faire. Non, 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 non. Mais ne négligeons pas la force du chant. Le chant ne fait pas tout, évidemment, mais chantez. Entretient notre âme. Entretenez-vous par des cantiques. Apprenons à chanter. Apprenons à cultiver, même si ce n'est pas audiblement, mais à nous entretenir des paroles de chant. Réalisons qu'au travers des chants, on proclame des vérités bibliques, n'est-ce pas ? On proclame des versets, on annonce, on confesse des vérités qui peuvent faire taire quelques raisonnements qui peuvent venir dans notre cœur. Et le chant, quand ce n'est pas une sorte de brouhaha dans notre esprit, je ne parle pas de ce chant que l'on met en fond de bruit dans notre maison ou dans notre voiture tout en pensant à autre chose. Non, je parle du chant, celui qu'on exprime et auquel souvent on y ajoute nos émotions, nos sentiments. C'est ça le chant qui est efficace. Bah, quelque part, c'est comme la prière. Et c'est vrai qu'au travers de quelques chants, des chants sont comme des prières. Et il y a même des situations où, quand on ne peut plus prier, quand on n'a plus la force, quand on n'a pas les mots, quand on est découragé, quand on ne sait plus où on en est, quand on n'est plus dans la capacité de prier. Alors merci le Seigneur pour toutes les fois où un chant redonnera de la vigueur à notre cœur. Merci Seigneur où au travers d'un chant, le Seigneur va remettre un peu de chaleur dans notre vie. Rappelons-nous que même dans ces moments difficiles où nous n'avons peut-être plus que des soupirs ou de la lassitude ou du découragement, alors ne négligeons pas la place du chant. Entretenons-nous par un chant. Peut-être même forçons-nous à chanter pour que les paroles que nous professerons reprennent le dessus sur nos découragements. Mettons du cœur dans le chant. Pour exprimer, pour renouveler la foi que nous devrions avoir. Merci Seigneur pour les chants qui peuvent nous replacer dans la présence de Dieu. Lorsque nous n'avons plus d'énergie par nous-mêmes d'exprimer et de mettre des mots sur ce que nous vivons, merci pour ces chants qui, eux, sont déjà composés et savent si bien, de temps en temps, exprimer ce qu'il y a au fond de notre cœur. Alors, merci. Pour Josaphat. Et c'est vrai que Certaines personnes, en lisant ces passages, disent « Ah, mais moi aussi, je veux des délivrances comme ça, c'est formidable! Moi aussi, je voudrais que je ne pas, et puis après, et puis moi, j'ai rien à faire, et puis le Seigneur s'occupe de tout, n'est-ce pas ?» Certains voudraient des victoires comme cela, sans avoir l'esprit de Josaphat. Certains voudraient avoir des victoires comme ça, où le Seigneur s'occupe de tout, sans avoir la discipline de Josaphat. Certains voudraient voir le Seigneur se lever comme ça dans leur vie, sans avoir cette rigueur, cette droiture, cet attachement à la parole tel que Josaphat. Certains voudraient avoir des victoires sans jamais prendre le temps de jeûner. Certains voudraient avoir une délivrance dans leur vie sans jamais véritablement avoir le souci de communiquer la parole autour d'eux. Pourtant, je crois que si ces exemples nous sont laissés, et vous pourrez voir en lisant complètement la vie de Josaphat que véritablement la bénédiction était avec Josaphat. Véritablement. Et Josaphat, comme on l'a vu, a vraiment été un homme avec un cœur entier, sincère, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, de foi, de confiance. Ce n'était pas un surhomme, ce n'est pas un homme meilleur que les autres, il ne se sentait pas plus efficace que les autres, mais il savait qu'il pouvait compter sur le Seigneur. Et en sans cesse, toutes circonstances, il avait recours à Dieu. Amen.